cours de création et de sélection variétale. Ce cours est destiné aux étudiants en agronomie. Il est dispensé dans le cadre d'une formation universitaire en sciences agricoles. Chapitre 1er. La création et la sélection variétale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par poser quelques définitions fondamentales qui nous seront utiles tout au long de ce cours. Première définition, la création variétale. La création variétale consiste à mettre au point une formule ou un prototype, c'est-à-dire un exemplaire modèle et original de variété génétique. Ce prototype, dans un environnement donné, qu'il s'agisse du niveau d'intensification ou de la pluviométrie, devra valoriser au maximum les facteurs du milieu et de production, tout en minimisant les risques. La recherche a le souci constant de créer des géniteurs productifs et faciles à multiplier. Les formules variétales ainsi élaborées peuvent être améliorées dans le temps, notamment en augmentant leur résistance aux maladies, aux insectes ou à l'averse. Ces formules sont étroitement liées aux caractéristiques des milieux. Ainsi, l'idéotype, c'est-à-dire le génotype considéré comme idéal et fixé comme objectif à atteindre, devra mieux répondre aux besoins de l'homme et de ses industries. Deuxième définition, la sélection variétale. La sélection variétale est l'ensemble des activités scientifiques et techniques visant à mettre à la disposition de l'agriculteur des variétés de plus en plus performantes. Elle est considérée à la fois comme une science et un article. Cela signifie que si elle dépend de la qualité propre du sélectionneur responsable, elle reste cependant attachée à toute une série de règles issues des connaissances scientifiques dans les domaines de la biologie, de la génétique, de l'agronomie, de la biométrie, c'est-à-dire l'analyse des caractères physiques propres à un être vivant, et même de l'économie. Toutes ces connaissances sont complémentaires. Les connaissances théoriques seules ne suffisent pas. Elles doivent être associées, sur le terrain, à une grande connaissance de la plante et du milieu. Le but de la sélection est d'accumuler au maximum des caractères adaptatifs dans une variété. C'est aussi un ajustement permanent des plantes au service de l'homme. Troisième définition, la variété. La variété, au sens propre, est un prototype génétique mis au point par la recherche pour un environnement donné. Dans le règne végétal, la variété est un sous-groupe d'une espèce donnée qui présente des caractéristiques spécifiques. Quatrième définition, la semence. La semence est une copie conforme, produite en très grand nombre, du prototype génétique donné. Les semences sélectionnées présentent un double intérêt. Sur le plan variétal, la recherche crée des formules au comportement et à la production optimale pour un environnement donné. En achetant la semence sélectionnée, l'agriculteur fait le choix d'une variété. Sur le plan semencier, la semence sélectionnée représente la fabrication en série d'une formule variétale. En effet, une production et un contrôle semencier bien organisés garantiront à l'utilisateur plusieurs avantages. Une graine et un embryon intacts avec une faculté germinative maximale, une graine propre et traitée garantissant l'absence d'insectes et de micro-organismes et donc une protection en début de végétation, et enfin une graine traitée et éventuellement calibrée permettant un semis régulier et homogène. Section 1.1, les objectifs et critères de sélection. Le potentiel de rendement des variétés des espèces cultivées ne constitue plus, comme dans les années 1970, un facteur limitant pour les cultures. De nos jours, les problèmes les plus importants sont liés à la stabilité de ces rendements et à l'aspect qualitatif des grains. Section 1.1.1, la stabilité des rendements. Un grand nombre d'espèces cultivées présentent des interactions entre le génotype et le milieu, qui se manifestent par une instabilité des rendements d'une région à une autre pour une même année culturelle, ou d'une année à une autre pour une région donnée. Ces instabilités sont en partie dues à une mauvaise maîtrise des itinéraires techniques de la culture. Indépendamment de ces facteurs phytotechniques, les facteurs génétiques et biologiques au sens large jouent un rôle dans l'expression et la stabilité des rendements. L'un des inconvénients majeurs rencontrés chez certaines espèces est la longueur de leur cycle, et en particulier leur cycle de reproduction. Cette longueur de cycle entraîne un développement végétatif important, responsable de l'averse et des difficultés de récolte, ainsi qu'une sensibilité accrue à tous les facteurs environnementaux. Section 1.1.2. Les perspectives de la stabilité du rendement. Une plus grande régularité et stabilité du rendement serait possible grâce à l'amélioration des techniques et par l'introduction de mutations contrôlant la croissance, le développement des organes reproducteurs et la durée du cycle. La sécurité au niveau du rendement est possible grâce à la sélection de géniteurs résistants et par la création de variétés génétiquement résistantes aux parasites majeurs des cultures. La qualité de la sélection est également rendue possible de nos jours grâce à l'introduction, dans le matériel en cours de sélection, de gènes gouvernant la multiplication des substances désirées. Section 1.2. La théorie de Charles Darwin, naturaliste britannique, né en 1809 et décédé en 1882. Le naturaliste britannique a exposé sa conception de l'évolution par la sélection naturelle. Selon lui, l'évolution des espèces biologiques résulte de la sélection naturelle des variations héréditaires nécessaires à la survie. Cette conception a constitué l'une des étapes les plus importantes de la biologie humaine. Pour Darwin, les espèces dérivent les unes des autres par la sélection naturelle. Sa théorie propose le transformisme, considéré comme un fait biologiquement indiscutable, à partir de trois données fondamentales. La première donnée est la croissance exponentielle du vivant. Les êtres vivants se reproduisent de manière abondante et excessive. Mais les conditions liées à l'alimentation et à l'espace vital sont limitées. La deuxième donnée est la destruction massive du plus grand nombre. À chaque génération, seul un petit nombre d'individus conçus parvient à survivre puis à procréer. La troisième donnée est que cette destruction ne se fait pas au hasard, mais selon un processus sélectif. Les individus présentant les caractères les plus avantageux sont les vainqueurs de cette concurrence vitale. À chaque génération, cette fraction privilégiée réussit à se reproduire de manière préférentielle. Dans des conditions environnementales données, ce sont les formes les plus performantes qui l'emportent. La sélection naturelle a donc un sens, celui d'une meilleure adaptation. D'après Darwin, il s'agit d'une lutte intraspécifique entre les individus d'une même espèce. Cette lutte est un processus sélectif qui aboutit à la survie des plus adaptés. Section 1.3, la théorie synthétique. Le schéma évolutif de cette théorie met en évidence le polymorphisme génétique des populations. D'après cette théorie, le maintien des individus d'une espèce implique la possibilité d'échanges constants de gènes entre les différentes populations qui constituent cette espèce. Ainsi, une modification écologique peut provoquer la séparation d'une espèce en plusieurs populations par des phénomènes naturels. Chaque groupe ainsi séparé évolue pour son propre compte. La base de la sélection naturelle reste toujours la sélection intraspécifique. Pour mieux comprendre cette théorie, voici comment fonctionne la sélection naturelle dans son ensemble. Elle comprend deux dimensions, la sélection intraspécifique, qui est la forme naturelle, et la sélection interspécifique, qui revêt une importance semencière particulière. Face à chaque génération, les individus font face à une alternative, la mort ou la survie. La majorité périt tandis qu'une minorité survit et se reproduit, donnant naissance à une population à fitness élevé, c'est-à-dire à valeur adaptative élevée. Le fitness, ou valeur adaptative d'une espèce, est caractérisé au maximum par le nombre de descendants produits par un génotype donné. La sélection naturelle est à l'œuvre lorsqu'un génotype apparaît mieux adapté qu'un autre. D'après la théorie synthétique, l'unité de l'évolution est la population. Une population est définie comme un ensemble de plantes appartenant à la même espèce au sens taxonomique, c'est-à-dire au sens systématique de la classification, de même niveau et même mode de reproduction, occupant le même habitat. C'est un groupe d'individus qui échangent les gènes entre eux sans aucune restriction. Plusieurs populations forment ce qu'on appelle une espèce. Prenons un exemple pour illustrer cela. Imaginons deux populations, la population 1, dont le génotype est homozygote dominant noté A majuscule, et la population 2, dont le génotype est homozygote récessif noté A minuscule. Si une barrière les sépare, les croisements restent possibles de part et d'autre de cette barrière. Le croisement des deux populations donne des individus hétérozygotes A minuscule, qui constituent l'espèce. Cette espèce peut elle-même être composée de multiples populations distinctes. Section 1.4, avantages et inconvénients de la sélection naturelle. La sélection naturelle est négative et défavorable pour les individus car elle élimine la majorité d'entre eux, mais elle est le moteur de l'évolution. Le mécanisme de la sélection naturelle, qui garantit la valeur maximale d'adaptabilité, repose sur plusieurs conditions. Il faut des individus en grand nombre, le croisement au hasard, appelé aussi panmixie, et le mode de reproduction, et il faut une grande variabilité génétique au sein de la population. La sélection naturelle a pour but d'obtenir la valeur maximale d'adaptabilité. Par contre, la sélection menée par l'homme diminue cette valeur. En effet, l'homme cherche le génotype le plus productif, tandis que la sélection naturelle donne le génotype le plus adaptatif. Cette sélection naturelle produit des individus les plus adaptés au milieu, que l'on appelle les écotypes. Chapitre 2, le programme de la sélection et de la création variétale. Section 2.1, les étapes d'un programme d'amélioration génétique. Dans un programme logique et cohérent d'amélioration génétique, l'objectif est l'obtention d'un matériel répondant, d'une part, à des impératifs d'homogénéité de la population et de la qualité, et d'autre part, à la condition d'être constamment reproductible et génétiquement homogène. Dans le contexte biologique de l'espèce, cela implique l'obtention d'individus issus d'une génération F1, c'est-à-dire la première génération filiale, entre des lignées parentales homozygotes. La démarche adoptée peut se résumer en 6 étapes. La première étape consiste à définir les caractères que l'on veut obtenir, notamment la forme des épis, la qualité, la taille et la qualité des grains. Pour cela, il faut se fixer plusieurs objectifs. Repérer les plantes remarquables par leur performance, définir le cycle total de la plante, c'est-à-dire la durée entre le semis et la maturation. Ce cycle total doit correspondre à la durée de l'hivernage. Quand la durée du cycle est inférieure à l'hivernage, il se produit souvent des détériorations des récoltes dues aux moisissures et autres champignons, ce qui diminue le rendement. Par contre, si la durée du cycle est supérieure à l'hivernage, la plante aura du mal à terminer son cycle, ce qu'on appelle un stress hydrique. Il faut également tenir compte de la stabilité de la plante, notamment sa résistance aux maladies et aux insectes, faire un bon choix de la taille de la plante, les plantes à taille moyenne ou courte étant bien indiquées pour la zone sahélienne en raison du vent, et enfin faire un bon choix par rapport à la longueur des épis pour les céréales, au poids de 1000 grains et à la taille des grains. La deuxième étape est le choix des géniteurs, c'est-à-dire des parents. La troisième étape consiste à exécuter le programme, c'est-à-dire à croiser les parents, à exploiter les descendants et à obtenir la nouvelle variété. La quatrième étape est de réaliser le test de performance en comparant la nouvelle variété avec des témoins. La cinquième étape est de vulgariser la variété en milieu paysan. La sixième et dernière étape est de produire les semences. Section 2.2, les caractères utilisés en sélection. Section 2.2.1, la précocité. La précocité est le caractère d'adaptation à la sécheresse. Elle présente des avantages et des inconvénients. Concernant les avantages, avec les variétés précoces, on peut obtenir une production suffisante. C'est un caractère à hérédité simple, le gène de cette variété étant souvent récessif, et il est facilement observable dans le champ, facile à utiliser pour les croisements et moins sensible à la lumière. Concernant les inconvénients, il existe souvent une corrélation négative entre la précocité et la productivité, ce qui signifie que les variétés précoces ont une potentialité de production inférieure à celle des variétés tardives. Section 2.2.2, la résistance aux maladies et aux insectes. Il est très difficile de travailler sur le caractère de résistance aux maladies et aux insectes pour deux raisons. Premièrement, il n'existe pas de source de résistance totale contre les maladies et les insectes. En effet, une variété résistante créée par la recherche devient avec le temps sensible, suite à des mutations. Deuxièmement, l'apparition de nouvelles races d'agents pathogènes pouvant attaquer cette variété résistante est fréquente. Section 2.2.3, le caractère rendement élevé. Le rendement des cultures est un caractère à faible héritabilité, ce qui signifie que les variances environnementales sont élevées et les variances génétiques faibles. Les causes de cette faible héritabilité sont les suivantes. Le caractère rendement est déterminé par un grand nombre de gènes, entre 10 et 120 gènes, ce qui en fait un caractère quantitatif. Il existe également une complexité des zones génétiques, avec des gènes dominants, des gènes surdominants, des interactions entre gènes et des liaisons génétiques. Le caractère rendement est influencé par le milieu, d'où une variance environnementale élevée. Contrairement aux autres caractères qui peuvent être étudiés sur des plantes individuellement, la sélection sur le rendement est pratiquée sur des communautés de plantes et sur une surface donnée. Les performances d'une variété dépendent alors du pouvoir de compétition. L'étude du rendement dépend également de dispositifs statistiques importants, introduisant le plus souvent des éléments aléatoires dans le calcul, comme par exemple la randomisation, qui est un échantillonnage aléatoire destiné à supprimer l'interférence de variables autres que celles qui sont étudiées. Dans le programme de sélection, la sélection pour le rendement intervient tardivement, après d'autres caractères, c'est-à-dire à la récolte. Elle intervient lorsque la variabilité génétique a fortement diminué, sous l'influence du milieu. Section 2.2.4, les exigences de la sélection. Le travail de sélection exige une parfaite connaissance de la biologie de la plante utilisée, sa morphologie, sa physiologie et sa phénologie, entre autres. Le chercheur ou sélectionneur doit posséder des variétés locales et étrangères, soit entre 10 et 20 variétés locales et 500 à 1000 variétés étrangères. Les parents des variétés locales sont utilisés pour leur bonne adaptation au milieu, et les variétés étrangères pour leurs caractères agronomiques. Il est plus difficile de travailler sur les plantes allogames, c'est-à-dire celles qui se fécondent avec d'autres individus, que sur les autogames, c'est-à-dire celle qui s'autoféconde. Pour les plantes autogames, on peut cultiver environ 50 plantes et en choisir 25 pour la multiplication. Par contre, pour les allogames, il faut disposer d'un nombre suffisant de plantes pour assurer une grande variabilité génétique. Il faut au moins 100 plantes avant de les multiplier pour obtenir un bon niveau d'hétérogénéité. Ces recommandations ne sont généralement pas respectées, ce qui entraîne la perte du caractère variétal de la plante. Chez les autogames, les distances d'isolement avec les autres cultures sont courtes, alors que chez les allogames elles doivent être grandes. À titre d'exemple concret, pour le mil, qui est une plante allogame, il faut 1 km de distance avec les autres cultures de mil. Pour le sorgho, qui est autogame, il faut au moins 400 mètres de distance avec les autres cultures de sorgho. Pour le maïs, qui est allogame, il faut au moins 1 km de distance avec les autres maïs. Pour l'arachide, qui est autogame, il faut au moins 50 mètres de distance avec les autres cultures d'arachide. Voici maintenant quelques termes clés à connaître. La protandrie est une condition dans laquelle les étamines arrivent à maturité avant les stigmates dans une même fleur, empêchant ainsi la fécondation du stigmate. La protogynie est une condition dans laquelle le stigmate arrive à maturité avant les étamines, empêchant leur fécondation. L'hétérogamie est un arrangement spatial, c'est-à-dire un éloignement, des organes mâles et femelles sur la même plante, empêchant l'autofécondation en absence des insectes visiteurs. Enfin, l'incompatibilité hétéromorphique, également appelée hétérostylie, est basée sur la différence de longueur entre les étamines et les pistils. On rencontre soit des fleurs à longs pistils et à étamines courtes, soit des fleurs à longues étamines et à pistils courts. Section 2.3, les différents types de variétés. On distingue 5 types de variétés. Section 2.3.1, les variétés à pollinisation ouverte. Ce sont des variétés locales, également appelées variétés population. Chaque plante constituant cette variété est génétiquement différente des autres, et les caractéristiques génétiques sont en perpétuelle recombinaison. Dans ce cas, la variabilité génétique peut être importante et peut entraîner une certaine variabilité morphologique entre les plantes. Section 2.3.2, les variétés hybrides. Ce sont des variétés issues d'un croisement entre deux matériels génétiques. On distingue les hybrides simples, les hybrides doubles, les hybrides à trois voies, les hybrides complexes et les hybrides intervariétaux. Section 2.3.3, les variétés synthétiques ou polyhybrides. Ces variétés se situent entre les variétés à pollinisation ouverte et les hybrides, car elles résultent d'une hybridation mais sont fréquemment cultivées en génération avancée. Section 2.3.4, les lignées pures. Ce sont un ensemble de plantes identiques, autogames, et homozygotes pour l'ensemble de leur caractère. Ces variétés sont parfaitement et génétiquement stables. Section 2.3.5, les variétés clones. Ce sont des familles de plantes issues d'une plante mère par multiplication végétative, obtenues par des manipulations biologiques de molécules identiques ayant le même patrimoine génétique. A. Titre d'illustration, voici les formules variétales les plus fréquentes. La lignée pure est notée L1 croisée avec L1. L'hybride simple est notée L1 croisée avec L2. L'hybride à trois voies est notée L1 croisée avec L2, puis ce résultat croisé avec L3. L'hybride double est noté L1 croisé avec L2, le tout croisé avec L3 croisé avec L4. L'hybride complexe peut prendre plusieurs formes, notamment L1 croisé avec L2, le tout croisé avec une variété V, ou encore l'hybride à trois voies croisé avec une variété V. L'hybride intervariétal est noté V1 croisé avec V2. Enfin, l'hybride synthétique peut être représenté par des combinaisons d'au moins 5 lignées. Section 2.3.6. L'importance de ces différents types de variétés. Premièrement, la variété population. La formule la plus fréquemment employée pour cette variété est la population elle-même. Une population est un ensemble de plantes façonnées, c'est-à-dire adaptées, dans un milieu particulier au cours de nombreuses générations, par les conditions naturelles et les pratiques culturales. Concernant la structure génétique des populations, chez les plantes autogames, la population est représentée par un mélange de lignées pures de phénotypes similaires. Dans ce cas, la variabilité génétique est limitée. Chez les plantes allogames, il s'agit d'un mélange de plantes hétérozygotes, chaque plante possédant un génotype unique avec une grande variabilité génétique. Dans le cas d'une population à reproduction végétative, la population est représentée par un mélange de plantes ayant plusieurs génotypes hétérozygotes, et donc la variabilité génétique est grande. Concernant l'aspect phénotypique des populations, les populations sont assez hétérogènes du point de vue phénotypique. Les plantes d'une population présentent plusieurs caractères variétaux communs, mais différentes elles par une série de caractères morphologiques qui présentent peu d'importance pour l'utilisateur, comme la couleur ou la forme. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme, c'est-à-dire la présence de plusieurs formes distinctes d'un même caractère dans une variété. Concernant les caractéristiques agronomiques des populations, les variétés populations sont adaptées à leur milieu de culture, mais leur productivité est médiocre. Elles sont adaptées à une culture traditionnelle et ne se prêtent pas bien à une culture intensive. Leurs gènes de productivité sont limités. Par contre, dans les zones où les conditions difficiles, ces variétés assurent la stabilité des rendements. Dans les travaux de recherche, on utilise les variétés locales ou populations comme l'un des parents pour assurer une bonne adaptation. Deuxièmement, les variétés sélectionnées. En ce qui concerne les lignées pures, la plupart de ces variétés présentent un mélange de lignées pures issues de croisements et présentant des phénotypes similaires. Cette composition offre une meilleure adaptation aux changements du milieu et une résistance à de nombreux parasites de culture. En ce qui concerne les variétés synthétiques, il s'agit d'une variété artificielle créée par le sélectionneur à partir d'un certain nombre de parents sélectionnés. Les parents peuvent être des lignées pures, des clones ou des populations, mais ce sont le plus souvent des lignées pures. Chez les variétés synthétiques, on n'observe pas ou peu de changements en passant de F1 à F2 jusqu'à F6. La cause de cette absence de changement est la grande stabilité de F1. Section 2.3.7. Les acteurs de la production des semences améliorées. Les acteurs de la production semencière améliorée sont au nombre de 3. Les chercheurs, les producteurs semenciers et les contrôleurs des semences. Premièrement, les chercheurs. Les chercheurs créent de nouvelles variétés, développent des paquets techniques d'accompagnement et mettent à la disposition des services demandeurs des semences de pré-base ou de base des variétés créées et homologuées. Ils assurent également la responsabilité de conservation par la maintenance des semences souches et la multiplication des semences pré-base. Cette étape est rigoureuse car elle permet l'élimination stricte des plants hors type, des plants malades, des plants d'autres espèces cultivées ainsi que des adventices. Chaque variété est accompagnée d'une fiche technique. Voici comment fonctionne la chaîne de multiplication des semences. On désigne par G0 le matériel de départ, c'est-à-dire le matériel parental ou initial, issu d'autofécondation effectuée par le sélectionneur de la variété. G1, G2 et G3 désignent les semences de pré-base, correspondant aux générations successives de multiplication. La production de semences de pré-base est assurée directement par l'institution qui a obtenu la variété, comme l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement, ou son mandataire. G4 est la semence de base obtenue à partir de la multiplication des semences G3. Ces semences sont produites par une institution de recherche ou toute personne physique ou morale répondant aux critères et disposant d'un agrément délivré par le ministère en charge de l'agriculture. R1 et R2 désignent respectivement la première et la deuxième multiplication des semences de base. R1 est la première reproduction des semences de base, et R2 est la deuxième reproduction des semences de base, issues de R1. En résumé, G0 est la variété sélectionnée par autofécondation en laboratoire. G1, G2 et G3 sont les semences pré-base obtenues par pollinisation libre en isolement ou par autofécondation, sous la responsabilité des chercheurs. G4 est la semence de base obtenue par pollinisation libre en isolement, sous la responsabilité des producteurs semenciers et des contrôleurs semenciers. R1 et R2 sont les semences certifiées par les contrôleurs semenciers. Deuxièmement, les producteurs semenciers. Ils acquièrent les semences de la recherche, qu'il s'agisse de semences pré-base ou de semences de base, et les multiplient pour obtenir des semences de base ou certifiées dans un but économique. Troisièmement, les contrôleurs semenciers. Ce sont des agents de l'État. Leur rôle est de contrôler la production de semences et d'attester du respect des normes établies pour la certification. Le contrôle se fait en 2 étapes, les inspections au champ et les analyses de laboratoire. On fait ensuite le choix des variétés à multiplier en fonction de la zone de culture. Les semences doivent provenir d'une station de recherche pour les semences de base, ou d'une ferme semencière pour les R1 et R2. Chapitre 3, le schéma de la sélection intrapopulation. Section 3.1, la sélection massale. La sélection massale est la plus ancienne et la plus simple des méthodes de sélection. Les anciens agriculteurs utilisaient cette formule sélective basée sur la sélection des différences phénotypiques entre les plantes. De nos jours encore, les agriculteurs utilisent des formes de sélection massale simples pour maintenir les variétés locales de leur choix, et plus important encore, pour sélectionner les pieds qui formeront les semences de la culture suivante. Dans les années 1960, des recherches menées par Gardner ont apporté des modifications utiles au procédé de sélection massale simple pour augmenter son efficacité, en réduisant les effets environnementaux et en assurant un meilleur contrôle des parents. Pour cela, la recherche insistait sur la nécessité de bien isoler les parcelles de sélection. Le semis en sélection massale doit être assez dense car le gain à attendre est proportionnel à la variance génétique additive. Et celle-ci est d'autant plus élevée que les plantes sont serrées. À la récolte, les semences des plantes retenues sont mélangées. Ce qu'on appelle une récolte en vrac. Section 3.1.1, l'héritabilité. Pour améliorer la qualité génétique des plantes cultivées, il faut préparer des plans de croisement efficaces. Cela exige une connaissance suffisante de la contribution du génotype à la variabilité du caractère considéré. La variabilité affectant la valeur phénotypique d'un caractère peut être répartie en deux composantes, l'une génétique et l'autre non génétique, ou environnementale. Lorsque l'héritabilité d'un caractère est élevée, cela signifie que la variabilité phénotypique est pour la plus grande part d'origine génétique. Ainsi, un agriculteur devrait obtenir de bons résultats en choisissant, dans la masse d'une population végétale, les individus dotés des meilleurs phénotypes, puisque la corrélation entre le descendant et le parent est en principe élevée. Le procédé est fondé sur l'enregistrement des performances d'un individu d'après son phénotype. Lorsque l'héritabilité d'un caractère tend à diminuer, la perspective d'amélioration de la qualité génétique de la lignée sélectionnée est compromise. Section 3.1.2, les variances de la sélection massale. Il existe trois variances de la sélection massale selon un ordre d'efficacité. Il s'agit de la sélection en autofécondation, en fécondation libre et en intercroisement. Les deux premières méthodes n'offrent qu'un intérêt très limité. L'autofécondation induit une baisse de rendement sans accroître l'homogénéité de la production. La fécondation libre aboutit à des résultats très variables, sans doute liés à l'absence de contrôle de l'origine du pollen. La sélection massale en intercroisement paraît quant à elle beaucoup plus efficace, car elle autorise un choix sévère des pollinisateurs tout en conservant un fort potentiel semencier. Section 3.1.3, les différentes formes de la sélection massale. Format, la sélection massale simple. Il s'agit, comme indiqué précédemment, de la méthode la plus ancienne de sélection. C'est une sélection phénotypique des plantes individuelles. Des épis en pollinisation libre des plantes sont sélectionnés selon des critères définis à l'avance, tels que la grosseur de l'épi et des grains, la taille des plantes, et ainsi de suite. À la récolte, les semences des pieds retenues sont mélangées en vrac pour le semis du cycle suivant. Forme B, la sélection massale quadrillée. Cette sélection nécessite la subdivision du champ expérimental en 4 subdivisions au minimum. Les meilleurs épis en pollinisation libre des plantes sélectionnées sont répartis en nombre égal dans chaque subdivision, puis semés. À la récolte, les semences des pieds présentant les meilleurs phénotypes sont mélangées pour le semis au cycle suivant. Ce cycle dure une saison. Forme C, la sélection massale avec contrôle de pollen. Le schéma de la sélection massale avec contrôle de pollen est similaire à celui de la sélection massale quadrillée. Cependant, après le semis, au stade de floraison, on procède à l'élimination, c'est-à-dire à la castration, des plantes présentant des phénotypes indésirables. Le processus se déroule ainsi. On commence par l'autofécondation de plantes sélectionnées, notées SA, SB, SC dans un premier temps, puis S1A, S1B, S1C dans un second temps. On sélectionne ensuite les meilleures d'entre elles, et on réalise enfin des intercroisements libres entre ces plantes sélectionnées. Forme D, la sélection épiligne simple, également appelée sélection demi-frère. Par opposition à la sélection massale simple, où un mélange des grains d'épis sélectionnés est semé en vrac, en sélection épiligne, comme son nom l'indique, les grains de chaque épi sélectionné sont semés sur des lignes séparées. Le principal avantage de ce système réside dans le fait que la sélection peut être basée sur la performance d'une famille-ligne aussi bien que sur celle d'une plante individuelle. Les demi-frères en pollinisation libre sont semés en épiligne, c'est-à-dire un épi par ligne, puis on fait la sélection entre les lignes et à l'intérieur des lignes, que ce soit sur une plante individuellement ou sur une ligne entière. À la récolte, les épis des pieds ou des lignes choisies sont recroisés en pollinisation libre pour produire de nouveaux demi-frères pour le cycle suivant. Ce cycle dure une saison. Forme E, la sélection épiligne modifiée. Le principe général de cette sélection consiste à intercaler un certain nombre de rangs de géniteurs femelles avec un certain nombre de rangs de géniteurs mâles. Les épilignes en pollinisation libre dans les rangs femelles seront castrées avant le lâcher du pollen. Ils seront donc fécondés par le pollen des plantes des parents mâles. Les dispositifs utilisés sont généralement de 2 lignes de mâles pour 6 lignes de femelles, et parfois de 2 épilignes mâles pour 4 épilignes femelles. Section 3.2, la sélection généalogique. La sélection généalogique est une méthode basée sur la culture des paniculés ou pieds lignés. Le sélectionneur cherche à combiner les avantages des parents en tenant compte de la complémentarité des caractères recherchés. Le nombre de plantes obtenues en F1 doit être très limité, environ 50, et les grains provenant de F1 seront semés en grand nombre, environ 5000, l'année suivante. En F2, on sélectionne les paniculés ou les pieds des plantes intéressants, en faisant le choix des plantes appelées têtes de lignée. C'est la période la plus importante car les caractères des futures lignées dépendent de ce choix. Prenons un exemple concret. Imaginons deux caractères à combiner. Le premier parent, noté A majuscule B minuscule B minuscule, possède un grain lisse et petit. Le second parent, noté A minuscule B majuscule, possède un grain gros et ridé. Le croisement de ces deux parents donne en F1 des individus hétérozygotes pour les deux caractères, ce qu'on note A minuscule B minuscule, qui présente un grain gros et lisse. C'est exactement la combinaison souhaitée. En F2, on obtient 16 combinaisons génotypiques différentes. Parmi celles-ci, on sélectionne les génotypes présentant les caractères souhaités, notamment ceux qui ont un grain à la fois gros et lisse. En F3, on fait ce qu'on appelle une culture pédigrée. On prend un pied et on le sème sur une ligne. Les grains de chaque pied choisi en F2 sont semés sur une seule ligne de parcelle de sélection. La sélection se poursuit pour retrouver les caractères retenus en F2. En F4, on dispose de familles lignées. L'homogénéité peut commencer à se manifester à ce stade. On continue la sélection pour l'ensemble des caractères retenus en F2. En F5, le processus est identique et on continue la sélection jusqu'à l'obtention de l'homogénéité. En F6, le matériel génétique est plus ou moins stable. On effectue alors une récolte en bulk, c'est-à-dire que l'on mélange les grains provenant de l'ensemble des plantes constituant les lignées. À ce stade, il y a lieu de faire passer les lignées issues de ce processus à des essais de rendement. Il est important de noter que c'est en F2 que commence la ségrégation des caractères, et donc qu'il y a une très grande variabilité génétique par rapport aux autres générations. Les avantages et inconvénients de la sélection généalogique sont les suivants. La sélection généalogique est la méthode principale pour les programmes importants de sélection, lorsqu'il y a suffisamment de moyens. C'est la méthode la plus efficace pour les plantes autogames, parce qu'elle est basée sur la sélection des génotypes et donc de l'homogénéité. Entre F2 et F6, le matériel génétique a le temps de se stabiliser. L'inconvénient est que cette méthode demande beaucoup de temps et beaucoup de moyens pour une étude détaillée. Section 3.2.1, la sélection généalogique différée. Le schéma de la sélection généalogique différée est similaire à celui de la sélection généalogique simple, mais il existe quelques différences. On croise les parents présentant des caractères intéressants, les grains issus de F1 sont semés et on obtient en F2 une population hybride d'environ 5000 pieds. L'année suivante, les grains de F2 sont semés sans un choix préalable. Le processus se répète jusqu'à F4. À partir de F5, les grains de chaque pied choisi sont semés sur une ligne de parcelle de sélection. Le nombre de pieds est égal au nombre de lignes. En F6, on commence à réaliser des essais de performance pour les caractères recherchés, notamment la résistance aux maladies et aux parasites, la couleur, la forme et le rendement. La méthode de la sélection généalogique différée est moins efficace que la sélection généalogique classique, puisque la sélection est faite tardivement, seulement à partir de F5. Section 3.2.2, le test de performance. La variété créée par la méthode généalogique sera comparée avec un témoin pour évaluer son potentiel génétique de production. Le dispositif utilisé est le dispositif par couple, ou appariement par couple. Il consiste à comparer seulement deux traitements, V, la variété créée, et VT, la variété témoin. Dans le milieu d'implantation de l'essai, les deux variétés sont regroupées en paires. Il y a autant de couples que de répétitions des traitements dans l'essai. Un tirage au sort pour l'affectation des traitements aux unités expérimentales se fait couple par couple. Les couples peuvent être considérés comme des blocs à deux traitements. Les avantages du test de performance sont les suivants. La possibilité d'obtenir des résultats très précis si le nombre de répétitions est suffisant, généralement 6 au maximum, et la comparaison aisée des traitements. Son principal inconvénient est qu'il n'est utilisable que pour des essais comportant deux traitements seulement. Section 3.2.3, la méthode de back-cross, ou croisement-retour, ou méthode analytique. Le back-cross, ou croisement-retour, a pour but, dans un matériel végétal déjà performant, de modifier certains caractères particulièrement importants ou de les corriger. Il apportera par exemple à une lignée A, appelée lignée récurrente, car elle revient à chaque génération, un caractère appartenant à une lignée B, appelée lignée donneuse. Ce mode de sélection est particulièrement adapté à l'introduction d'un caractère simple dans une variété autogame ou dans une lignée. Le backcross consiste à croiser la variété à améliorer avec un pied présentant le caractère agronomique intéressant B, puis à rétrocroiser pendant 5 à 8 générations les descendants de ce caractère avec la variété A. À chaque génération, le taux des caractères homozygotes augmente et le génotype se rapproche progressivement de celui de la variété d'origine. Prenons deux exemples. Exemple premier, le cas où le caractère à apporter est récessif. On commence par le croisement de A, la variété à améliorer, avec B, la variété donneuse. On réalise ensuite un premier croisement retour, qui consiste à croiser le résultat à croiser avec B à nouveau avec A. On procède alors à une autofécondation en faisant le choix des plantes manifestant le caractère de B tout en conservant l'ensemble des caractères de A. On réalise un deuxième croisement retour en recroisant ce résultat avec A, suivi d'une nouvelle autofécondation avec le même choix. Ce processus se répète ainsi pour N croisements, jusqu'à la fixation des caractères de B en position homozygote. Les autofécondations après chaque rétrocroisement sont destinées à extérioriser le caractère récessif. Ces croisements de retour permettent de fixer rapidement un caractère désiré en travaillant sur un nombre réduit de plantes. Exemple deuxième, le cas où le caractère à apporter est dominant. On commence par le croisement de A avec B. On réalise ensuite le premier croisement retour, c'est-à-dire le résultat de A croisé avec B, que l'on croise à nouveau avec A, suivi du choix des plantes manifestant le caractère de B tout en conservant l'ensemble des caractères de A. Ce processus se répète pour N croisements, chaque fois suivi du même choix. On procède ensuite à une première autofécondation pour fixer le caractère B en position homozygote, puis à une deuxième autofécondation pour confirmer cette fixation, et enfin à une troisième autofécondation pour une fixation définitive du caractère B en position homozygote. Conclusion du cours. Nous voici arrivés à la fin de ce cours sur la création et la sélection variétale. Vous avez pu découvrir les fondements théoriques et pratiques de cette discipline, depuis les définitions de base jusqu'aux méthodes de sélection les plus élaborées. Ce cours vous a permis d'appréhender les objectifs de la sélection, notamment la stabilité des rendements et l'amélioration de la qualité des grains, de comprendre les bases biologiques issues des théories de Darwin et de la théorie synthétique, de connaître les différents types de variétés et les acteurs de la filière semencière, et enfin de maîtriser les principales méthodes de sélection intrapopulation, que ce soit la sélection massale sous ses différentes formes, la sélection généalogique, ou encore le croisement retour. Ces connaissances constituent le socle indispensable à tout agronome ou chercheur souhaitant améliorer les performances des plantes cultivées au service de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.